Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Radio Galère à Marseille au 88.4. Il est 16h45 et vous êtes sur L'Art Osé. L'Art Osé, tous les troisièmes lundis de chaque mois, une émission culturelle, musicale, théâtrale, une émission ouverte à toutes et à tous. Bienvenue. Aujourd'hui, en ce lundi 17 novembre, nous recevons deux invités et nous allons aujourd'hui parler avec vous d'une musique, mais pas n'importe laquelle, une musique maghrébo-andalouse. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Oussama.
Bonjour.
Bonjour Sid Ahmed. Comment est-ce que vous allez ?
Ça va très bien.
Super.
Super. Tu peux te rapprocher un petit peu du micro, Ahmed. Voilà,
ouais.
Parfait. Je suis très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. On avait déjà reçu Oussama pour parler de la musique Shaabi il y a quelques mois. Et aujourd'hui, avec vous tous les deux, on va s'intéresser plus précisément à la musique maghrébo-andalouse. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter tous les deux, me dire qui vous êtes et quel est votre rapport à cette musique ?
Sid Ahmed, à toi la parole.
Alors, bonjour à tout le monde. C'est Sid Ahmed Fouanis, un amoureux de cette musique arabo-andalouse qu'on dit en Algérie la musique classique. Je suis issu du conservatoire algérien, donc l'école d'Alger, Sanaa. J'ai participé et j'ai vécu dans plusieurs associations, connu plusieurs maîtres que je salue à partir de cette radio. Le dernier en date est pas les moindres, mon maître Hamid Khaddim. Voilà. Et en même temps, on active dans la réalisation, la création d'une association au niveau de Marseille pour la transmission de cette musique. Voilà.
Enchanté, enchanté Sid Ahmed.
Merci Ilan pour cette deuxième invitation. J'avais parlé de Shaabi la première fois. Là, on va parler de musique andalouse, donc un peu, je veux dire, là où s'est découlé le Shaabi dans les années 20. Mais là, on va aller très loin dans l'histoire, je pense, grâce à mon maître aujourd'hui, parce qu'il saluait ses maîtres. Moi, je peux dire que Sid Ahmed aujourd'hui, c'est mon maître au niveau de la musique andalouse. C'est une rencontre à Marseille depuis pas très longtemps et on est en train de justement de lancer une association, on est en train d'écrire les statuts en ce moment. On répète tous les jeudis et vendredis de 19 à 20h. On commence à avoir un groupe assez sympa et on a plein de projets autour de cette musique-là. Et pour moi, Sid Ahmed, c'est un savoir encyclopédique. Et j'ai envie de prendre le maximum de lui.
Super.
Merci beaucoup.
On est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Ça me fait beaucoup plaisir de parler de tout ça avec vous. On va du coup aborder les origines de cette musique maghrébo-andalouse et ensuite, après ses origines, ses ramifications et où elles partent. Oui ? Dis-moi, tu peux me dire.
On lance une petite appréciation.
Mais évidemment, avant de parler de tout ça, on va écouter une petite musique qui va nous permettre de bien comprendre. C'est tout de suite sur Radio Galère, sur La Rosée. cher Heure, cher Is, vous êtes toujours sur l'art osé sur Radio Galère 88.4. Nous sommes toujours en compagnie de Ahmed et Oussama. Alors les amis, pourquoi cette musique pour nous présenter, nous introduire la musique maghrébo-andalouse?
Merci cher Ilan. Alors, le choix n'était pas, c'est pas du hasard. Nous avons choisi une introduction musicale qui s'appelle Tchambar Ajam. Donc le sens littéral, c'est une symphonie, mais pas du tout arabe, qui est hors culture arabe. Et c'est pour mettre l'accent sur l'universalité de la musique que nous jouons, que nous chantons, et la poésie aussi. Et pour les mélomanes, vous avez des influences qui commencent de la Perse et qui viennent vers la péninsule ibérique, mais en partant du Maghreb. Notre approche déjà par rapport à cette musique, c'est de recadrer, essayer de recadrer les choses et essayer de sortir des stéréotypes et surtout des croyances folkloriques par rapport à cette musique. Généralement, on dit que cette musique vient d'Espagne, donc la péninsule ibérique, qui est à migrer avec, après la chute de l'Andalousie vers le Maghreb. La réalité, c'est que c'est le contraire. C'est une musique qui a migré du Maghreb vers l'Andalousie. Ce qui est venu de l'Andalousie, c'est certains instruments que nous ne connaissions pas avant la rencontre des Zriyeb et Ibn Baya, tels que le luth, le oud. Et il y a des influences d'autres cultures, telles que la culture mongole, par exemple. On a l'ancêtre du violon qui vient de là-bas. Et notre violon à nous, qu'on appelle rebab, sous la forme d'une petite goélette maritime, avec une seule corde, une corde de ré. Et c'est un instrument rythmique. C'est pour donner le rythme quand on chante. Donc, nous avons voulu faire passer cette variante de Touchia qui est Tchambar, c'est une marche, pour, comme je l'ai dit auparavant, pour mettre l'accent sur l'universalité de cette musique. On ne peut pas cantonner cette musique à une région ou à une culture unique. Et en partant vers les poésies, on retrouve des termes et des mots qui viennent d'autres cultures, tels que, par exemple, pour ne citer que nos amis perses, qui ont donné beaucoup à la musique et à la poésie du monde. Pour ne citer qu'un seul exemple, c'est le mot « julenar » qu'on rencontre dans la poésie andalouse et qui veut dire « la grenade », donc « roman ». Et sa couleur rouge et sa douceur. Et donc les poètes l'ont beaucoup utilisé pour définir et surtout donner une certaine douceur à certains vers de leur poésie. Voilà.
Et à partir de quelle époque s'est créée ces musiques et tous ces mélanges ont eu lieu? Parce que je te pose la question, parce que c'est drôle, le oud qui est dans l'imaginaire peut-être occidental un instrument typique de la musique maghrébo-andalouse, en fait tu dis que c'est lui, là, c'est le seul qui effectivement vient de l'Europe, mais que tout le reste c'est l'inverse, que ça s'est fait. Et du coup, à quelle époque on peut dire que cette musique, elle a pris naissance de tous ces mélanges entre l'Asie et l'Afrique, selon toi? Et quelles étaient les bases, les instruments de base, les inspirations, les poésies de base?
Bon, pour les instruments de base de la musique andalouse, il n'y avait pas de... Tel que par exemple l'instrument de rythmique qu'on connaît actuellement, tel que derbouka et tar, c'est des instruments nouveaux.
Ouais.
Donc la section rythmique était assurée par le rebab, qui donnait des notes rock et qui donnait le tempo. pour pouvoir chanter telle ou telle poésie. Mais tout ce qui est harmonique, c'était des instruments qui s'apparentaient à la guitare, qui s'apparentaient à la mandoline, qui sont plus qui s'apparentaient à la harpe. Mais l'évolution de ce brassage culturel a fait que, et évidemment l'avènement de Zeyeb en l'actuelle Espagne, donc en Andalousie, a fait que nous avons adopté le luth, parce que c'est un instrument déjà qui est mystique, qui est incroyablement mystique, et qui, avec un tout petit manche, pas plus de 18 cm, te permet de donner des notes à l'infini, on va dire. Et surtout, ce sont des instruments, tous des instruments non frettés. Donc nous avions cette liberté de jouer.
Est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs et les auditrices qu'est-ce que ça veut dire non fretté, voilà. Qu'est-ce que sont les frettes?
Donc les frettes, c'est des tonalités, c'est des notes. On peut pas aller vers le quart de note. Mais quand l'instrument n'est pas frété, on peut aller vers le quart de note, on peut aller vers
le huitième.
Le huitième et tout ce qui s'ensuit. Comme je l'ai précisé auparavant, c'est une musique qui ne s'écrivait pas. Donc, la technicité actuelle de cette musique n'existait pas. C'est une musique au ressenti. C'est une musique... Elle est mystique. Il faut comprendre ce que tu chantes et ce que tu joues. Et selon l'ascension du niveau de prise de conscience des textes et de la musique, on atteint une certaine transcendance. Comme on le dit jusqu'à aujourd'hui, surtout sur la place d'Alger, quand tu es en face d'un orchestre avec un grand maître qui exécute et qui interprète une pièce magistralement, on dit recapt. Donc je suis en transcendance. Mon corps est là, mais mon âme est ailleurs. Je ferme les yeux et je voyage dans le temps. Et vous avez utilisé un terme lors de l'introduction, le terme théâtral. Cette musique, nous œuvrons. Et dans notre projet actuel, c'est de théâtraliser la Nouba. La Nouba qui correspond à une certaine heure du jour et à un certain mode. Donc c'est une musique modale et qui renvoie vers la nature, parce que c'est une poésie d'observation et de ressenti, bien sûr.
De méditation.
De méditation. Et qui dialogue avec l'âme. Donc, il faut vraiment comprendre cette poésie et il faut vraiment comprendre cette musique. Pourquoi on joue telle note et pas une autre? Pourquoi on fait telle modulation et pas une autre? Pour qu'on puisse atteindre ce niveau de conscience. Et c'est tout ce qui fait cette beauté de cette musique. Maintenant, pour la transcendance et tout ce qui s'ensuit, puisqu'on a parlé des origines de cette musique et surtout des instruments de musique, nos instruments de musique à nous ont toujours comporté 4 cordes en chœur. La première corde réglée sur la note de sol, la deuxième c'est la note de ré. La troisième, c'est la note de la. Et la dernière, c'est la note du mi, en grave. Pourquoi 4 notes? Et pourquoi 4 cordes en chœur? Qu'on retrouve même dans des instruments folkloriques, quoique je n'aime pas le mot folklorique, mais des instruments actuels, tels que le mandol ou la mandole, selon les gens. Et surtout sur le luth, le oud l'arbi, qui comporte 4 cordes. Il n'y a pas de 10 cordes et 11 cordes et 12 cordes. Donc tout simplement parce que chaque corde et chaque résonance de corde parle avec un état d'âme de l'être humain. Donc, la corde de sol, c'est tout ce qui n'est pas bien dans l'être humain, tout ce qui est mauvais. Et on le schématise avec un petit filon en soie à la base, là où il y a la boucle pour tirer la corde, en soie en couleur jaune, donc qui envoie à la bile. La corde de ré, donc la deuxième, c'est un filon de soie aussi, mais en blanc. Donc tout ce qui est vertu, tout ce qui est beauté de l'âme. La troisième corde qui est le la, c'est un filon rouge. Donc tout ce qui est chaleur, printemps, nature, et chaleur, donc le sang. Et la dernière corde, c'est un filon de soie, mais en couleur noire. C'est la trabile, c'est le petit quart d'heure de folie que peut passer n'importe quel être humain. Il peut faire les pires choses inimaginables sur Terre. Et là, il n'y a pas pire que tuer, par exemple. Sachant que les cordes, en ce temps-là, se faisaient avec des boyaux d'animaux. Donc il fallait quelque chose pour tenir la corde en bas, pour créer la boucle qui s'accrochait au cordier. Les mêmes cordes, si on revoit l'habit traditionnel de l'andalou, de l'homme andalou.
Comment tu peux définir l'homme andalou?
Et la période aussi.
Et la période.
La période, c'est entre le 7e et le 14e siècle.
Et l'homme andalou, il recouvre quelle région?
Ah, c'est toute l'Andalousie, y compris le Maghreb. Voilà.
Oui, mais je le dis parce que pour certaines personnes, c'est pas forcément clair. Oui. Parce que pour certaines personnes, l'Andalou et l'Andalousie, c'est le sud de l'Espagne uniquement.
Non. Alors, l'Andalousie, c'est pour ça qu'il faut, c'est important de lire ces poésies. On parle de Tolède. Tolède est là.
Ouais.
Et pourtant, Tolède, c'est le nord. On parle de Séville, Ishbilia.
Séville, on est en Andalousie.
Ouais. Grenade. On parle de plusieurs localités et c'est une façon en ce temps-là d'historisation. Donc on mettait dans des poèmes des récits et le récit n'était pas narratif uniquement, mais c'était pour faire apprendre aux gens et apprendre telle ou telle coutume, telle ou telle us des sociétés. Et on apprend beaucoup, tel que par exemple on rencontre dans ces poésies très très lointaines le mot tergal, terkali, que nous avons connu récemment avec certains costumes de certaines grandes marques, pour ne pas faire de publicité aux gens. Nous avons connu dans nos textes qu'à partir de la grenade, du Julénard, on pouvait faire des vins, alors que pour... Le commun des mortels, le vin ne vient que de certains cépages de raisin. Donc c'est des moyens d'éducation et surtout d'information.
Du coup l'homme andalou, il recouvre toutes ces zones et il est une culture à part entière entre ces différents pays.
Oui,
tout à fait.
En ce moment-là, il n'y avait pas ces pays. C'était une région féodale. Donc la présence déjà des Maghrébins ou des Arabes ne se faisait pas, contrairement à ce qu'on dit, ne se faisait pas au glaive et au coup de sang, mais c'était à la demande de certaines grandes familles féodales ibériques que certaines tribus maghrébines se sont déplacées pour être comme défendeurs là-bas, comme surtout cultivateur des terrains, des terres. Et cette cohabitation, quoique ce mot-là n'existait pas en ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas de problème entre telle ou telle culture. Les gens s'acceptaient. Donc cette cohabitation et cette influence orale a créé des modes. Si on prend le mode Arak, sur la note de fa, on voyage entre entre les régions berbères du Maghreb, vraiment le sud de l'Espagne, et même quelques connotations de musique fado, Portugal. Si on prend un autre mode tel que Rm el Maya, on trouve des influences citanes ou citanes. Donc, il n'y a pas de frontière et il n'y avait pas d'exclusion. C'est une culture, c'est une poésie, c'est une musique inclusive. Elle acceptait tout le monde. Elle était faite par tout le monde. Et il faut mettre aussi l'accent sur le fait qu'en ce moment-là, le monde parlait arabe. Quand on parlait de savoir, il fallait parler arabe. Il fallait lire arabe.
Et les universités, c'est à Cordoue.
Voilà. Donc après, on peut interpréter selon telle ou telle école, telle ou telle poésie, mais on ne sort pas du mode. On ne peut pas sortir du mode. Pour la simple raison que cette poésie-là porte en elle-même sa musicalité. C'est une science en littérature arabe qui s'appelle Sharh al-Arud. Et on ne peut pas déroger à certaines règles. C'est pour ça que nous sommes taxés de puristes par nos amis et confrères du Chaabi. Parce que le Chaabi...
Qui est
une poésie écrite en arabe dialectal. Donc accessible à tout le monde, populaire, mais qui n'est pas une musique ou une poésie de seconde zone. Attention, c'est une musique aussi savante et surtout des poésies très savantes et très porteuses. Elle véhicule au même titre que l'andalou, elle véhicule des vertus, des enseignements sur le plan sociétal, sur le plan religieux, sur le plan culturel. Et c'est aussi une certaine forme de récit.
Mais ils vous taxent de puriste parce qu'à la différence...
La poésie Chaabi ne répond pas et n'est pas cloîtrée dans les règles grammaticales
des modes.
Surtout de l'arabe.
Ah, de la langue.
Déjà,
de la langue
au niveau du langage, si je peux me permettre.
Ouais.
Et aussi au niveau de la structure musicale, où c'est beaucoup plus libre. Et si je peux rajouter, après je t'inviterai peut-être à nous donner la différence et en fait à mettre l'accent entre la différence entre une musique modale et tonale, et entre aussi la transmission qui passe par l'oralité et pas par l'écrit. Et j'aimerais aussi peut-être mettre le point sur certaines spécificités de cette musique andalouse, ce qu'on appelle la musique maghrébo-andalouse, qui aujourd'hui se pratique, on va dire, dans le Maghreb, d'une manière générale, donc en Tunisie, au Maroc, en Algérie, et qui constitue en gros trois écoles. Il y a beaucoup de théories sur pourquoi il y a trois écoles, pourquoi il y a certaines différences. Il y en a qui disent parce que ceux qui sont venus de Cordoue, ils sont partis après la reconquista, espagnole, ils ont fui, donc ils sont partis à Alger. D'autres, moi je crois pas trop à ce récit-là, parce que je pense que c'est pas les gens de Cordoue qui sont venus à Alger ou les gens d'autres qui sont venus ici. Moi je pense plus au mélange, c'est-à-dire cette musique, comment elle a été pratiquée en Andalousie, après la chute de Grenade, même avant. Tous ceux qui ont fui un peu l'Andalousie, c'était juifs et musulmans d'ailleurs, c'était pas que les musulmans, parce que les chrétiens ils ont chassé les deux religions monothéistes. Ils sont arrivés et c'est la rencontre avec la population locale et ce mélange-là qui a donné ces trois écoles qui sont un peu différentes dans leur façon, on va dire, d'interpréter, on va dire, au niveau technique musical.
Oui.
C'est ça, c'est
oui.
Et tu me reprends si je dis des conneries. Hein.
Non.
On a un appel, est-ce que vous voulez qu'on le prenne? C'est quelqu'un qui appelle la radio qui veut.
Oui, pourquoi pas, avec plaisir.
Alors on le prend. Oui, bonjour. Non. La ligne 2. Hop. Bonjour. Attendez, vous passez pas à l'antenne. Je sais pas pourquoi vous passez pas à l'antenne. Ouais. Tu sais pourquoi, Sidi? Alors, on a un petit problème technique qui va se résolver d'ici peu.
Inch'Allah.
Voilà.
Inch'Allah pas.
C'est ça. Vous l'entendez?
Là, je pense qu'on l'entend.
J'espère.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Oussama, salam aleykoum et pastachio, j'espère que tu vas bien, c'est David. Bravo pour l'émission, c'est super intéressant.
Merci le David.
Padam, le Padam avait vendu une émission sur le Shaabim, on parle du Maghreb. Merci Oussama pour le Maghreb andalou, tu viens de sauver mon cœur. Tellement je suis fatigué qu'on dise toujours arabo andalou, ça me déprime. Et merci à votre invité. Juste un mot, je comprends ce qu'il ressent sur le folklore, mais le folklore c'est très important parce que finalement c'est ce qu'on est nous. C'est les sciences des traditions, de l'art populaire. Donc c'est un mot quand même qui a de la valeur. Et voilà, je voulais juste dire ça. Par contre, ce que je trouvais très intéressant, au départ, je voulais poser une question un peu pour rigoler, mais il y a un truc qui sous-tend tout ça, c'est les liens. Les liens, et je trouve ça super important, les liens via la culture. Et tu sais ce qu'on dit souvent, on dit le fascisme, ça commence avec les fous, ça se réalise avec les salons et ça continue avec les cons. Et nous, malheureusement, vu ce qui se passe ces derniers moments, je voulais vous demander... Vu que la musique, c'est quelque chose qui nous transcende tous, est-ce qu'un jour, notre grande maison méditerranéenne, qui a tellement de sens à nos yeux et à nos cœurs, est-ce qu'un jour, toutes ces musiques, au-delà qu'elles soient savantes ou pas savantes, tu sais que je suis un grand amoureux de Alanka, est-ce qu'un jour on pourra arriver vers la paix, l'intelligence, et est-ce que finalement ce ne sera pas la musique qui nous permettra de nous rappeler à nos origines et à...
David, moi je pense que notre salut sera peut-être dans la musique parce que c'est le langage le plus universel et qui nous touche. Et d'ailleurs, dans cette musique andalouse, Sidi Ahmed il a parlé de Perse, mais en fait on va donner un autre mode. Et le mode c'est le caractère, c'est Taba, donc c'est une musique, on parlait de musique modale. Le Jarka par exemple, il vient de l'Inde. Voilà. C'est encore beaucoup plus lointain. Et je pense que si on étudie un peu la musique, qu'elle soit modale ou tonale, on trouvera toujours des ramifications et des liens, que ce soit au niveau harmonique ou que ce soit au niveau rythmique. Et tout ça, c'est universel et c'est propre de l'homme, en quelque sorte. Parce que l'homme, il a commencé par écouter. Et d'ailleurs, je reviendrai, tu me dis si c'est une hypothèse fausse ou pas, mais moi, j'y crois à ça, que la touche yagrib, d'ailleurs, qui est un peu spéciale,
oui.
Il paraît... En fait, qu'elle a été composée sur le jaillissement d'une fontaine. C'est-à-dire que le monsieur contemplait l'eau qui jaillissait. Oui. J'imagine-moi bien dans l'Alhambra, Grenade, oui. Dans mon imaginaire, etc. Et qu'il a retranscrit ça. C'est-à-dire oui. Que finalement, la musique, c'est quelque chose qui est dans la nature et qu'on ne fait que la retranscrire chacun selon sa culture, etc. Alors... Merci beaucoup, David, franchement, pour ta... Non.
Juste pour un corollaire à tout ça, est-ce que finalement, peut-être pour nous rapprocher, au-delà de nous sauver, on ne sera peut-être pas bien inspiré un jour de tous retourner aux instruments et de ne pas laisser à la place, ça c'est un autre débat, mais de ne pas laisser la place à l'IA qui finalement va peut-être tronquer toute cette origine commune, tous ces mélanges et tous ces...
Elle ne pourra pas, cher David. Je peux paraître un petit peu catégorique quelque part. Mais je vous dirais qu'elle ne pourra pas parce que ces musiques-là et notre folklore, si vous lui ôtez l'âme, ça sera quelque chose de très plat, ça sera quelque chose de fade.
Bah, tu as anticipé ma question, c'est la notion de l'âme justement.
Voilà, et c'est pour ça que je parle de transcendance, et je parle de résonance, et je parle de musique savante. Et pour revenir à votre... intervention, et je vous remercie beaucoup parce que vous mettez le pied à l'étrier à quelque chose de très important. Cette musique-là a toujours prôné la paix, l'amour, et surtout la rencontre. Il n'y a pas d'exclusion dans notre musique à nous. Elle est fondamentalement inclusive. C'est pour ça que j'utilise ce terme.
D'ailleurs, c'est pas notre musique à nous.
Voilà. j'ai eu des professeurs où j'avais demandé le sens de telle ou telle poésie, et malheureusement, je n'ai pas eu de réponse, parce que c'est une transmission orale, donc ils ont appris à chanter, à jouer tel ou tel morceau, ils nous l'ont appris, je les en remercierai jamais assez. Ils nous ont laissé un patrimoine qui est inestimable, mais j'ai été obligé, moi et certains de mes amis, on constituait une petite équipe de fous, de troubadours, de personnes qui sortaient des cloîtres classiques.
Pour dépoussiérer tout ça.
Voilà, on était dans l'obligation d'aller voir et d'aller chercher ailleurs. On a cherché chez des professeurs, des linguistes, et durant notre petite vie avec des passages comme touristes en Espagne, en France, en Allemagne, en Italie, en Tunisie surtout, en côtoyant des amis dont je salue Ismaël, un ami marocain qui fait partie de notre groupe. Quand on pose des questions, on a des réponses d'érudits, des spécialistes, des linguistes.
Oui, et, très important.
Oui,
très important.
Alors moi j'ai toujours posé la question, pourquoi quand on chante l'arabe ou andalou, on dit « taratil lalan » ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ils te disent « oui, c'est pour le rythme et pour une nécessité musicale, il faut terminer la phrase avec cela ». Jusqu'au jour où j'ai rencontré une voisine qui était professeure de littérature arabe, et qui était une voisine, et en même temps professeure de mon enfant, mon aîné, en lui posant la question, elle me dit « oui, mais c'est deux mots, c'est pas un seul mot ». Je lui dis « explique-moi ». Elle me dit « ce que tu peux voir, tara, li ». Ce qui m'apparaît à moi. Tellen, maintenant, c'est de l'arabe qu'on a perdu. C'est de l'arabe classique qu'on a perdu. Donc, il suffit pour nous de s'ouvrir sur l'autre et surtout l'écouter, l'accepter. Et il y a des termes aussi qui ont muté, qui ont traversé les temps et qui sont d'origine ibérique, d'origine hébraïque, d'origine, et on chante des poésies de ces origines-là. Dans le mode Sika, on a Berbi Ladi Farraj ala Ayoub. Elle peut être tout ce que vous voulez, mais sauf cloîtrée, issue ou cloîtrée dans une seule et unique religion, pour ne pas citer telle ou telle religion. Donc c'est une multiculturalité qui a traversé les siècles, à charge pour nous de la préserver et surtout de la transmettre fidèlement.
Parce que, voilà. Parce que, en quelque sorte, la production culturelle, et que ce soit dans l'architecture, que ce soit dans la musique ou toutes les formes culturelles, c'est le miroir d'une société à un moment donné.
Merci beaucoup, Oussama, pardon. Tu me fais rappeler, et je m'excuse, pour la Touchi Yagrib que tu as citée tout à l'heure, oui. Et par rapport à l'eau. C'est exactement cela, mais dans un autre contexte. L'eau, par rapport à une heure. Il faut savoir qu'à l'Alhambra, à l'entrée, il y a les 24 lions d'où jaillit de l'eau, des fontaines. Donc
c'est à l'intérieur du palais des Nasrides.
Voilà. Ouais. Donc à la contemplation du fait que l'eau s'est coulée et le temps, il y a eu cette composition. C'est une théorie, on n'a aucune trace historique pour cela. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. La Touchia, c'est une Touchia Ansarafet Grib. Donc oui. C'est le dernier mouvement de la Nouba. Et c'est plus gai, c'est plus rapide.
D'ailleurs, ça serait bien qu'on revienne un peu à des choses un peu techniques, parce qu'on en a parlé plus de la mysticité, oui. Et de la poésie, pour parler un peu plus de la... Voilà. C'est quoi une Nouba ? Parce que déjà, Nouba, c'est un sens très péjoratif.
Actuellement, aujourd'hui.
Actuellement, oui. En tout cas en France.
Donc, c'est important, la Nouba, c'est rigolo quoi.
Ouais. La Nouba, c'est... Ça renvoie à une heure.
Oui, clair.
C'est clair.
Je vous laisse parce que sinon j'aurais trop envie d'être avec vous. En tout cas, je continue à vous écouter.
On sera ravis de vous recevoir chez nous, dans l'association.
Ouais, dès que je serai plus interdit à Radio Galère, je viendrai physiquement.
Ah bah super.
Mais en tout cas, continuez. Puis j'espère qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui écoutent ça parce que Voilà, on est
c'est tout ce qu'on espère.
Les gouttes d'eau, elles ont besoin de vivre en France.
Et les gouttes d'eau, elles font des fontaines. Hein. Et après, les fontaines, elles font des grands ponts.
Après, on va à l'endroit où ça va. Et un petit clin d'œil à Al-Andalus.
Ça, là où vous voulez. On est partant. Merci.
Allez, prenez soin.
Merci.
Merci, David.
Bonne
merci.
Émission.
Ciao. Merci.
Donc, l'Anouba qui renvoie à une heure. Cette heure-là, elle est structurée.
C'est bon.
Cette heure-là, elle est structurée. Il y a une structure qui est... Le premier mouvement, il est instrumental, sans parole, qui s'appelle la Tushia ou le Tchambar. La différence entre les deux, c'est que la Tushia, quand on l'exécute, il y a un certain type de texte qui vont suivre et c'est plus rythmé parce que c'est une marche.
Juste pour préciser ce qu'on avait écouté au début de l'émission, c'était un tchambar.
C'est un tchambar, donc il est rythmé, plus rythmé. La Tushia est moins rythmée que cela. Et donc le deuxième mouvement, c'est le Msaddar. C'est une introduction poétique. Elle est très, 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 très lente.
En fait, c'est un rythme qui monte crescendo.
Exactement.
On commence tout doucement.
Tout doucement.
Pour ne pas agresser l'âme, on va dire.
Voilà. C'est la structure d'une transcendance, quelque part. Le troisième mouvement, c'est le Ptaihi, qui est un peu plus rythmé que le Msaddar. Le quatrième, c'est le Darj, qui est l'introduction vers la fin de tous les mouvements, qui est deux fois plus rythmé que le Msaddar. Et après, on a l'Ansaraf avec l'Ansaraf Khlas.
Si on peut parler un peu technique, c'est plus, avec un tempo plus rapide, en fait.
Tout à fait.
Donc, on monte en tempo.
Exactement.
Et les trois derniers mouvements, donc, à part la Tushia, donc Ptaihi, Msaddar et Darj,
oui.
On est sur un rythme, on va dire, qui aujourd'hui se joue d'une manière, on va dire, un rythme 4-4.
Oui.
Et après, on change complètement de rythme pour aller vers l'Ansaraf.
Oui.
Et là, c'est en quelque chose... Pour moi, c'est un rythme que j'affectionne particulièrement. Parce que c'est un rythme
un
peu...
On a encore un appel.
Oui.
Je ne sais pas si c'est la même personne, mais on prend.
Oui, on prend. Je finis juste ma phrase en attendant.
Eh ben alors, rappelez-nous dans deux secondes quand il a fini sa phrase.
Donc, le rythme, c'est un rythme en fait asymétrique et boiteux et qui nous mène en fait dans quelque chose qui est ni binaire ni ternaire. Il est deux à la fois. Et cette endogénéité, moi,
c'est ce qui fait la beauté de notre fête.
Tout ça fait.
Voilà.
On prend le, si vous voulez.
Je ne sais pas s'il y a toujours quelqu'un en ligne. Allô ? Non. Bon, la personne nous rappellera.
Ouais.
Très bien.
C'est ce qui fait la beauté de Nusrafet.
Et tous ces modes dont vous parlez, vous avez dit un moment qui pouvait correspondre à des moments de la journée.
Oui.
Et aussi à des humeurs, des états d'âme.
Tout à fait. Là, on est en train de dire la Nouba dans sa structure.
Ouais.
Donc là, on est arrivé au Nusrafet. Après Nusrafet.
Du coup, la Nouba, c'est toute une évolution musicale qui va constituer le concert. Enfin, comment on peut appeler ça ?
Oui, tout à fait.
Et une heure.
C'est une heure.
Une heure de temps, en quelque sorte.
D'accord.
Et
dans
après,
une heure de temps, il y a tous ces modes qui s'enchaînent.
C'est pas des modes, c'est des rythmes.
Ah.
Et après, chaque heure a un mode différent.
Ah.
Elle renvoie chaque mode renvoie vers une heure différente.
On a la personne. Allô. Pourquoi ça marche pas? Je comprends pas. Allô. Je vous avoue, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Il faut appuyer quelque part, je sais pas. On a encore le grand résolveur des problèmes techniques qui vient. Là, c'était l'autre ligne. Ah, il faut appuyer à chaque fois. D'accord, ok. Autant pour moi, la personne qui a rappelé, vous pouvez rappeler, j'ai compris comment ça marchait. Merci, ouais, ok.
Et puis après le Nsaraf qui veut peut-être dire, enfin, il dit littéralement quelque chose, c'est-à-dire on est vers la sortie.
La sortie,
Nsaraf.
Ouais.
C'est-à-dire après partir. On a le khlas,
ouais, c'est la fin, c'est la conclusion.
Et là c'est un peu rythmé, c'est un peu dansant.
C'est l'épilogue de toute Nouba.
Okay.
Maintenant la Nouba, on lit une Nouba à une certaine heure, mais ce n'est pas une condition pour la jouer à telle heure. Elle renvoie vers une heure bien donnée. On parle du crépuscule, on parle de l'aurore, on parle du zénith du soleil, on parle de la nuit, on parle de l'après-midi.
D'accord.
Mais ça reste toujours des...
Allô ?
Allô ?
Oui, bonjour.
Oui, bonsoir. C'est pour poser des questions pour la radio, pour l'émission.
Oui, bien sûr, allez-y. On vous écoute.
Bonsoir.
Ah, bonsoir. Je voulais savoir, est-ce qu'il faut être débutant pour venir dans votre association ou est-ce qu'on peut être avancé ou...
Il faut avoir la volonté de venir déjà. Après, sur le plan technique, il vous suffit d'avoir la volonté uniquement. Après, vous apprendrez tout
en fait,
ça.
On va structurer en fait les cours par niveau. Donc, on peut commencer avec, mais selon combien de personnes on va avoir.
Ouais, l'initiation déjà.
L'initiation et puis une classe semi-supérieure, une classe supérieure. Et en fait, dans l'association, on ne compte pas que de faire de la musique andalouse. Aujourd'hui, on parle spécifiquement de la musique andalouse.
On fait aussi du shabi.
On fait aussi du shabi. On compte aussi créer une classe de langue, ouais. De langue arabe et de langue dialectale.
Ouais. Pardon ?
Je vous écoute.
Si on n'est pas arabophone, comment on fait ?
C'est simple. C'est très simple. Vous avez les syllabes phoniquement, on peut apprendre à parler n'importe quelle langue. Donc, maintenant pour apprendre à chanter les poésies, on peut faire une transcription en lettres latines aussi. C'est ce qu'on est en train de faire avec certains de nos amis de l'association. Voilà.
Et à partir de quel âge ?
Ah ben,
de 4 à 99 ans.
Voilà.
D'accord.
Voilà. Mais ceux qui ont 99 ans, on demande que leur papa soit accompagné par leur papa.
Ah ben oui.
Mais d'ailleurs, peut-être que c'est bien que vous appeliez, je ne sais pas si vous êtes une dame ou un monsieur, j'arrive pas à entendre avec les voix de la radio.
Apparemment, c'est un monsieur.
Vous êtes un monsieur.
Ouais.
En tout cas, merci d'appeler. Mais du coup, je me dis qu'on peut, vous pouvez peut-être en parler maintenant. Où se situe votre association ? Si les gens ils veulent venir vous voir en direct et quand et comment, etc.
C'est à rue Boisseau.
En ce moment, ouais, on a un local qui est à rue Boisseau.
Ouais,
dans le 16e arrondissement.
À Saint-André.
Ouais, vers Saint-André. Et on répète de 19h à 21h. Pour la musique andalouse les jeudis soirs et les vendredis de 19 à 21h pareil,
ouais.
pour le shabi. Pour le moment, on est en train de créer les statuts, enfin on est en train de déposer les statuts de l'association, donc il n'y a pas pour le moment une existence officielle. Mais ceux qui veulent nous contacter, je peux leur donner peut-être mon adresse mail personnelle, enfin, je veux dire, c'est professionnel aussi, je l'utilise pour tout. C'est Oussama, O-U-2-S-A-M-A, E-S, @hotmail.fr.
Tu peux la répéter, Oussama ?
Oussama, comme Oussama, donc O-U-2-S-A-M-A, il faut rajouter après E-S,
E-S,
@hotmail.fr. Pour toute demande d'information.
Merci beaucoup.
C'est nous qui vous remercions.
Merci, monsieur.
Merci beaucoup.
Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, donc, pour reprendre, si vous permettez, par rapport au mode et renvoi par heure, c'est une façon aussi de décrire la vie au quotidien de l'homme andalou, l'homme ou la femme andalouse, par rapport à telle ou telle heure. Voilà. Donc nous avons, à l'origine, nous avions 24 nouba. Mais comme c'est une transmission orale, il y a l'effet de l'érosion et le temps qui a fait son effet. Donc nous sommes actuellement, tout dépend des écoles. Pour certaines écoles, nous sommes à 16 nouba, pour d'autres 14. Et pour certaines écoles, ils disent « oui, c'est 18, mais je ne suis pas très d'accord par rapport à tel et tel nouba ». L'important et l'essentiel, c'est que le plus gros existe. Nos amis au Maroc ont fait un travail colossal, c'est de réunir et surtout reconstituer certaines noubas qu'ils ont perdues, telles que Noub Klistihlel, pour ne citer que celle-là. Pour nous aussi, il y a eu un travail de fond, pour nous, en Algérie, il y a eu un travail de fond qui a été exécuté par un des grands maîtres de cette musique, qui est feu Sid Ahmed Serri, qui a fait un travail d'enregistrement. Il a enregistré pratiquement l'essentiel du patrimoine arabo-andalouse ou maghrébo-andalou.
C'est une manière de graver dans le temps cet héritage oral.
Exactement, parce qu'à un moment donné, les grands maîtres des écoles, des trois écoles d'Algérie, ont pris conscience que l'effet de l'érosion a fait des dégâts.
Oui, bien sûr.
Donc, et il a fait participer, c'est tout le monde qui a participé, même des maîtres de l'école Gharnaté, donc de Tlemcen, et l'école du Malouf.
Si tu permets, ça m'intéresse juste qu'on prenne deux minutes pour que tu me dises ce que tu penses justement du fait que cette érosion qui peut-être était naturelle depuis longtemps a à un moment alerté les gens éminents de la musique maghrébo-andalouse au point qu'ils se disent peut-être que là, il faut garder des traces. Ça s'est passé quand ? Est-ce que c'était au XXe siècle ? Est-ce que ça coïncidait avec les technologies modernes, avec le côté un petit peu bordélique de notre époque qui fait que les choses se perdent ? Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont dit « Ah là, ça fait peur, on va essayer
de... » C'est d'une manière générale le phénomène de la patrimonialisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui est universel. À un moment donné, c'est récent. Donc quand je dis c'est récent, c'est fin 18e siècle où on a commencé à se dire que bon, c'est du patrimoine et il faut le figer. Ça n'a pas que servi cette musique qui a été en fait vivante et aujourd'hui en fait on la transmet d'une manière assez figée aussi.
D'accord.
Donc ça a un avantage qu'aujourd'hui, d'ailleurs je vous invite à aller voir, ça s'appelle le patrimoine de la...
Le patrimoine de la culture algérienne
où vous pouvez retrouver sur internet en fait toutes les noubas pratiquement, parce que quand on a dit tout à l'heure
il y a pas que ça, même le raï, le chabi, le gharbi,
tout à fait, mais il y avait vu qu'on parle de la musique maghreb andalouse et en fait c'est il y a toute l'encyclopédie de tous les textes et de toute la musique est transcrit aussi en solfège. C'est-à-dire que c'est quand même assez ouvert à tout le monde et c'est quelque chose qui a été fait par le ministère de la Culture algérienne.
Oui, c'était le parrainage du ministère, mais le plus gros du travail, c'était...
C'était à Serri, oui.
C'est Ahmed Serri et Consoeur et les gens qui l'entourent. Mais la question de notre ami est très intéressante. Réellement, parce que je l'ai vécu en classe, tout jeune, l'éruption d'un des maîtres qui parlait à mon maître et qui disait non, c'est pas comme ça qu'on dit, c'est pas comme ça qu'on chante. C'est la discorde qu'il y avait entre certains maîtres qui a alerté certains autres maîtres sur le fait que cette discorde-là pouvait nuire à notre musique. Et c'est ce qui a fait qu'on ait perdu quelques pièces. Pour la simple raison que moi personnellement aujourd'hui, même quand je suis en classe, quand je commence à chanter ou à jouer, la première personne qui m'apparaît en face de moi, c'est mon maître, Maître Dim, et j'ai peur qu'il écoute quelque chose que j'exécute et que ça ne soit pas tel qu'il me l'avait transmis.
Fidèle, ouais.
Fidèle à sa façon de faire. Et dans la hiérarchie de ces musiques en transmission orale, c'est très important d'avoir l'aval de ton maître. Sinon, tu ne peux pas être même pas maître, tu ne peux même pas être cheikh, interprète. Tu as connu cette musique, point barre, pas plus. Ça ne fait pas de toi une référence. Donc, ce conflit entre maîtres et surtout ce conflit entre écoles a poussé certaines personnes qui ont eu cette clairvoyance de se dire, attendez une minute, on va se réunir autour d'une table. Et avec toutes nos divergences, on va se mettre d'accord sur plusieurs versions qui sont, on va dire entre parenthèses, politiquement correctes, qui peuvent rassembler tout le monde.
Après, ça a donné aussi la
possibilité. Après, dans les associations, c'est pour ça qu'en Algérie, vous avez le conservatoire et vous avez les associations qui sont très structurées. Dans les associations, chaque maître a créé une association où il donnait sa façon de voir. Résultat aujourd'hui, nous avons certains musiciens, certains interprètes. Je ne voudrais pas citer de nom pour ne pas faire de
polémique.
Polémique ni de jaloux, qui ont deux façons, trois façons d'interpréter la même pièce, qui peuvent l'interpréter de deux, trois façons. Et quand vous posez la question, mais c'est quoi la différence ? Ils vont vous dire que cette façon, il me l'a donné, exemple, Cheikh Sadr Bjaoui, Cheikh Sid Ahmed Serri, celle-là c'est El Fakharji, et l'autre c'est Ahmed Ben Achour. Alors que la distance en kilomètres entre les trois, elle ne dépasse pas les 40 kilomètres.
Alors c'est pourquoi toute cette différence ?
C'est la richesse de cette musique. Pourquoi ? Parce que c'est l'influence des instruments aussi. Je vous ai parlé d'instruments frettés et non frettés. Donc, pour certains chers qui n'a jamais épousé ou adopté des instruments frettés, par exemple la guitare, elle est interdite sur scène.
Oui, dans certaines
associations. Moi, je me suis vu refouler de la porte avec une guitare à la main.
Au bonjour, mandol.
Bonjour, on n'en parle même pas.
Et si tu enlèves les frettes ?
Même pas.
Tu arrives avec une guitare non frettée ?
Guitare non frettée, elle est acceptée. Pourquoi ? Parce qu'ils vont vous dire que c'est un instrument transitoire vers le luth, vers le oud. Donc, mais guitare, banjo, harmonica, accordéon, tout ça, c'est de la science-fiction hein, par rapport à l'andalou. Mais ce n'est pas admis. Il faut rester dans les le piano, c'est un instrument qui a été introduit grâce aux gens du Chaabi. Le piano. Avant, le piano de l'orchestre maghrébo-andalou, c'était le qanoun. C'est une forme de harpe avec un fond et une peau généralement de raie.
Oui, qui est plate.
La remontée,
c'est ça,
oui,
qui est plate.
Tout à fait,
ouais.
Et qui est plate. Avec deux.
Horizontalement.
Deux
voilà, c'est ça. Ouais.
Et c'est à l'origine du piano, parce que les Allemands, quand ils ont créé une des premières formes, c'était s'appelait le Hammerklavier. Donc, c'est un clavier à cordes, on tapait avec des petits marteaux. On retrouve
Mais
le même.
Cet instrument, il est en demi-ton, quart de ton, et il va jusqu'à où ?
Il peut aller jusqu'au huitième.
Temps. Et on trouve le même instrument chez nos amis arméniens, mais qui ne se joue pas avec des plectres, mais avec des petites cuillères, comme ça. Je ne sais pas comment on les appelle, mais. Donc, la preuve qu'il n'y a pas de frontières. Et puis, la musique, c'est une langue universelle. Donc. On doit accepter tout le monde et surtout on doit écouter tout le monde.
Et accepter aussi que même cette musique un peu traditionnelle qui évolue, après elle a vécu aussi les affres de la colonisation.
Ouais.
Pour revenir un peu peut-être, tu pourras parler de cet épisode-là, de Rouhanet et de Yafil, ouais, qui sont des musicologues. Pardon.
Ouais. Ils ont fait un travail au niveau du conservatoire d'Alger. C'est de transcrire tout ce patrimoine en solfège, chose qui était inimaginable.
Tu m'expliquais avant l'émission que c'est presque incohérent dans le sens où il y a des choses qui manquent dans l'écriture du solfège occidental et qui pourraient ça serait absurde.
Voilà, ce n'est pas presque, mais c'est incohérent.
Et alors,
c'est même inimaginable pour les puristes, lui dire que je vais transcrire la Tushia ou Chambar ou un Msaddar ou un Anqleb, il va te dire oui, mais comment tu vas l'écrire ?
Parce qu'elle est toujours différente.
Non, mais il manquera toujours dans le vocabulaire que tu peux avoir, Ilan, au niveau de solfège, des nuances qui n'existent pas pour pouvoir les écrire et les transcrire en quelque sorte dans l'écrit, quelque sorte. Donc, vu que après c'est des bassins civilisationnels où la transmission elle est orale, mais aujourd'hui ce qui peut être très intéressant et ce qui aurait pu être très intéressant aussi. Même par rapport au travail de Yafil, qui a permis aussi de conserver, mais qui a figé des choses. Ouais. Et puis, la colonisation aussi en Algérie, à un moment donné, elle a pris ça, parce que cette musique andalouse, il faut le dire aussi, elle était jouée beaucoup par des notables. C'est une musique un peu savante, ce qui fait qu'ils étaient proches aussi de l'administration coloniale. Donc, ils étaient permissifs à la rentrée, par exemple, de la mandoline. qui est un instrument frété, qui aujourd'hui fait partie quand même des orchestres andalous.
Oui, pourquoi ? Parce que parmi les colons en Algérie, il y avait des gens d'origine italienne, sicilienne, qui ont rapporté avec eux les instruments. Et il ne faut pas oublier que l'Algérie, c'est un pays de port. Et donc le brassage des cultures par rapport au port...
Oui, la plupart des habitants sont sur la côte.
Au nord déjà. Et c'est là où on a connu le cajon, on a connu des instruments, le banjo, au début du siècle, qui a été introduit rapidement dans les orchestres
Chabi plutôt,
pour sa sonorité, tonalité véloce. Maintenant, cette musique, en même temps, a été utilisée durant la période coloniale comme instrument de résistance quelque part, mais très passif. Très civilisé, parce que c'est une musique de, comme vient de le dire Oussama, c'est des musiques de cour, c'est les notables, parce que c'est de l'arabe très, très, très littéraire, très raffiné, c'est une musique très raffinée, ce n'est pas du fast-food.
Qui se transmettait aussi dans des familles un peu bourgeoises.
Oui, c'est la bourgeoisie. Donc
la bourgeoisie, on va dire... indigènes entre guillemets, parce qu'on les appelait comme ça, qui étaient aussi proches des milieux, on va dire, intellectuels coloniaux. Ouais.
Mais pour marquer le caractère et l'identité algérienne, ils ont tout fait pour la préserver, ne pas laisser partir cette musique et surtout cet habit. Parce que orchestre, se produire automatiquement, c'est l'habit traditionnel, l'habit algérois. Jusqu'à un passé très proche, moi, mes grands-parents, mon grand-père, j'en ai connu un seul, je me souviens de son tarbouche, chéchia, de son foulard genre turban autour de la taille, et pourtant, c'était les années 80-90. Mais c'était pour eux une façon de marquer leur identité et de dire « nous sommes là ».
Et du coup, il y a peut-être une volonté de la marquer aussi par l'écrit, quitte à la transmettre avec le solfège,
bien sûr.
Même si ça pouvait être incohérent, c'est ça que tu penses ?
Bien sûr. C'est une façon d'ancrer, de marquer quelque chose quelque part. Parce que c'était très volatile, c'était très...
Et ça risquait de se perdre en fait.
Donc c'est l'érosion.
C'est un mal
ça
pour un bien.
Ça risquait de se perdre parce que c'était moins pratiqué ou parce que c'était moins transmis.
À un moment donné, oui, parce que nous sommes une société telle que toutes les autres sociétés, donc on subit les influences et les moyens de communication nouvelles. Donc on fait que on a importé d'autres musiques qui ne sont pas les nôtres.
Et de manière très rapide en plus.
Ben oui, et c'était violent parce que ma jeunesse était marquée par les Bee Gees, tel et tel groupe occidentaux, Michael et autres, Brassens, Jacques Brel, en voiture, à la maison, dans les cafés, dans les salles de cinéma. Donc à un moment donné, ta propre musique, comme c'est un acquis, tu ne fais aucun effort pour la maintenir, tu ne fais aucun effort pour la préserver, de la garder. Tu vas te dire, oui, mais je l'ai. Mais décennie après décennie, toi-même, tu la perds. On ne parle pas de tes enfants.
Est-ce que, si je peux rajouter autre chose, c'est qu'à un moment donné, cette musique a été transmise beaucoup dans les familles. Elle n'était pas très, très, on va dire, démocratisée.
Ouais.
Et aujourd'hui, il y a un véritable travail, et c'est grâce aux associations. Parce que je pense que même les gens qui la gardaient chez eux à un moment donné, ils se sont dit si on s'ouvre pas,
ça va se perdre.
Mort, et il faut pas oublier aussi la dessinée noire en Algérie. Ouais. Les années
Est-ce
90.
Que tu peux rappeler bien ce que c'est comme ça.
La dessinée noire, c'est évident. La guerre civile qui a duré 10 ans depuis 92, on va dire, jusqu'à la fin des années 2000, où parce que cette pratique se fasse. La transmission de la musique se passait dans les associations et à partir du moment où on est dans du terrorisme...
Après on se rencontrait chez X et chez tel et un tel.
Donc la transmission ne se passait pas forcément. Et surtout par rapport à la nouvelle génération. Ouais. Mais moi, j'ai eu la chance de voir, après les années 2000, vers les années 2010 aujourd'hui, mais il y a des associations en Algérie, oui. Mais de partout.
C'est un engouement.
Et t'as des jeunes qui apprennent tout le temps. Enfin, tu vas dans les associations à Alger, je sais pas combien il y a d'associations aujourd'hui. À Paris, dans la musique andalouse algéroise, ou enfin dans l'école de Sanaa ou dans l'école Kimsali, on a aussi énormément. Ouais. À Montréal, il y en a aussi énormément. À Londres, il y en a aussi énormément. Donc ça s'est démocratisé.
Au Chili.
Oui, ça s'est beaucoup démocratisé et je pense que ça fait vraiment beaucoup de bien. Et pour continuer aussi sur. Et rendre hommage aussi à une personne, parce qu'on est quand même le 17 novembre, mais ça me rappelle, c'était le 14 novembre. Dedine Sahbi aussi, qui était un musicologue et qui est malheureusement mort pendant les événements à la rue Fontaine le Roi.
Lesquels événements ?
Les événements du 14 novembre, il y a 10 ans.
Du 13 ?
À Paris.
Ah, oui. C'était pas le 13. Ah,
le 13.
Le 13. Le Bataclan.
Ouais. Ah ouais. Lui qui était.
Il est mort au Bataclan, lui.
Ouais, ouais.
Il sort... Non, il était pas mort au Bataclan.
Il
marchait dans la rue. Ouais. Il sortait d'une répétition de musique d'une association de musique maghrébine andalouse. Et il avait son violon à la main droite. Il a reçu une balle au cœur à gauche. Donc je tiens à lui rendre hommage. Lui était musicologue. Il travaillait. C'était son projet. Ça faisait qu'un an qu'il était à la Sorbonne. Et il travaillait sur la reconstitution de certaines parties de la Nouba qui en sont perdues. Donc, mais c'est un travail de recherche.
Ouais.
Et aujourd'hui, il y a beaucoup de musicologues aussi qui travaillent sur ça.
Tu pourrais répéter son nom, s'il te plaît, Oussama ?
Khairdine Sahbi. Voilà.
Mais c'est bien qu'on parle d'association parce que ça nous permet, il faut qu'on finisse sur ça. Après, il y a une émission qui est en différé. On a 3-4 minutes pour terminer. Du coup, j'aimerais revenir sur votre association. Merci d'avoir été avec nous pour nous raconter l'histoire, l'origine et le développement de la musique maghrébo-andalouse. Vous avez décidé de créer une association à Marseille autour de cette musique pour la diffuser parce qu'elle est... à tout le monde, inclusive, qu'elle s'est toujours nourrie de plein de choses.
Tout à fait.
Et que même s'il faut l'ancrer, il faut la laisser vivre.
Bah oui.
Et pour l'instant, votre association, elle n'a pas encore de nom. On aurait aimé lui donner un magnifique nom comme ça, mais elle a un lieu.
Elle a un lieu, elle a des statuts qui sont en cours et on va les déposer très bientôt. Mais après... Je pourrais peut-être après te donner les informations de l'association, les adresses.
Bien sûr.
Si tu fais le podcast, évidemment. Comme ça tu pourrais mettre en commentaire toutes les informations, les contacts, etc.
Évidemment. Voilà. Et ça, je le mettrai en podcast et j'en reparlerai dans une autre émission. Est-ce que tu peux rappeler l'adresse de l'association si les gens veulent vous retrouver ?
En ce moment, on est 16 rue Boisseau.
Oui.
16 rue Boisseau dans le 16e.
Dans le 16e arrondissement.
Et
le jeudi de 19h à 21h, le vendredi de 19h à 21h aussi.
Et c'est ouvert à tout le monde, qu'il soit musicien, pas musicien, arabophone, pas arabophone.
Exactement.
Jeune ou vieux, femme ou homme.
Oui, voilà. Il faut être humain, c'est tout.
Trop bien.
C'est tout ce qui nous intéresse.
Ben, merci.
Et je vous remercie pour cette invitation et pour cette occasion qui est inouïe. Et surtout, je voudrais relancer encore que l'un de nos projets, c'est de réussir à théâtraliser les Noubas. Donc là, on fera...
Comme une sorte d'opéra ?
Voilà. C'est nos opéras à nous.
Ok. Et ce n'est pas du tout le cas dans l'histoire de cette musique-là. Ce n'est pas du tout théâtralisé pour l'instant.
Non.
Ça, c'est notre projet, c'est notre dada, je pense. Il y a plusieurs manières de le réaliser et on fait appel à travers on va dire cette onde et cette radio pour dire s'il y a des comédiens, s'il y a des réalisateurs, s'il y a des par exemple, pour un premier temps, moi j'imagine aussi un artiste visuel...
Des plasticiens, des scénographes.
Exactement. Voilà. Qui peut faire, soi-disant, un truc vidéo qui va illustrer parce qu'on va lui raconter qu'est-ce que ça raconte et qui peut accompagner aussi l'orchestre quand on va jouer la Nouba. Ça pourrait être un très, très, très bon projet.
Est-ce que tu peux nous rappeler ton mail, Oussama ? Comme ça, les gens qui sont intéressés soit par venir faire des cours ou rencontrer votre association, soit directement par cette idée de théâtraliser les Noubas et la musique maghrébo-andalouse, puissent te contacter.
Oussama, O-U-2-S-A-M-A. es@hotmail.fr et tu vas le mettre dans le podcast.
Bien sûr. Oussama, es@hotmail.fr. N'hésitez pas. Merci Sid Ahmed et merci Oussama.
Merci beaucoup, Ilan. Merci Radio Galère.
C'était un grand plaisir. Vous étiez sur L'Art Osé, une émission culturelle, théâtrale, musicale et populaire. On se retrouve dans un mois, le troisième lundi de chaque mois, de 16h30 à 18h. Et je vous laisse avec les ondes de 88.4 Radio Galère. C'est tout de suite.